bienvenue avec Léna Kadour-Boudadine.
Bonjour à tous.
Agnès sur Stel, qui finalement n'a pas été licenciée. Ouais.
Merci.
Daniel Morin.
Bonjour.
Albert Albou. Tanguy Passereau sera là tout à l'heure. Et nos invités sont Chantal Lobby et Jean-Pierre Macri.
À la chaque jour.
Donc chaque jour, vous êtes obligé de faire comme
ça. Je sais pas, c'est ça me met.
C'est ça où on fait des voix d'enfant.
Non, mais parfois on le pense. Parfois on le pense. Mais non, parfois
je
pense.
Je vous écoute et je vois bien que vous avez le même enthousiasme que ce soit pour moi ou pour.
Vous êtes jaloux,
Jean-Pierre, je dois vous avouer une chose. Ouais. Nous n'invitons pas les personnes que nous n'aimons pas.
Moi,
je m'engagerai pas.
Je la connais très bien.
Dites pas n'importe quoi. En appelant du gars, il me regarde, il sourcille pas.
Alors, je vais aller plus loin. Certaines personnes que nous avons invitées en étant bienveillants, en se disant ça peut bien se passer, et avec lesquelles ça s'est pas forcément bien passé, ne reviendront pas.
Ça, c'est vrai.
Non, je vous garantis, Non, c'est vrai.
Donc, avec nous, ça s'était bien passé.
C'est pour ça.
Attends la fin, d'accord? Ah, on va pas commencer non plus.
Tu veux pas laisser une chance à François Berléand?
Bonne vanne. Le film dont nous allons parler s'appelle Photos de famille. Alors, ça peut paraître triste de dire que le film ouvre sur un enterrement et finit sur un enterrement, et c'est pourtant le cycle de la vie. Sauf que le premier enterrement.
C'est beau ça.
C'est le fils du roi Lion.
Ça peut aussi commencer par une naissance et finir par un enterrement.
Hakuna Matata, Nagui.
Mais je pense que ça peut venir. Ça peut faire venir beaucoup de choses. ça c'est une accroche, j'y aurais pas pensé, mais je pense que je vais la faire maintenant.
Le premier
film qui commence par un enterrement et qui finit par un enterrement.
C'est l'accroche du Fossoyeur.
Donc je vous souhaite un bon spectacle.
Vous allez vous marrer.
Le premier enterrement fait exploser la famille, le deuxième enterrement réunit la famille. Ça vaut pas mieux ça?
C'est beau ça.
Ouais, c'est beau, mais
c'est exactement ça.
Bien sûr.
Et puis il y a le milieu.
Et il y a le milieu dont nous allons parler.
Et
il y a tout le milieu.
Non, parce que contrairement à ce que pourraient penser les gens qui vous écoutent, il y a un enterrement au début et un enterrement à la fin, mais au milieu, on rit beaucoup.
Alors,
il faut le dire qu'on rit, parce que cette femme, elle est intelligente, elle écrit bien, elle a fait des beaux dialogues, drôlissimes.
Il y a beaucoup d'humour et beaucoup d'humanité. C'est Cécilia Rouault qui réalise son deuxième film.
Alors évidemment, il y a des vieux, oui. Ah oui, il faut dans un film, il faut deux trois vieux. Ben voilà.
Il y a plusieurs générations.
C'est votre papa qui meurt au début du film.
Ah bon?
C'est votre papa dans le film qui quitte le casting. On l'a jamais vu.
C'est un gros con.
Tout le monde ne l'aimait pas spécialement. Celle qui soutient votre maman et votre ex-femme jouée par Chantal Lobby.
Là, les gens sont largués déjà.
Là,
pour moi, deux auditeurs sur trois sont largués total.
Et il y a trois enfants.
Le père est mort, mais vous êtes soutenu par... C'est pas possible.
Il y a trois enfants joués par Camille Cotin, Vanessa Paradis et Pierre Deladonchamps. Ça, ce sont vos trois enfants. On est d'accord.
Et la cellule familiale n'est pas complètement soudée, finalement. Parce que vous, ancien couple séparé, on voit bien que ce n'est pas complètement la fête non plus dans vos relations.
Moi, je suis désolée, il est avec une jeunette. Il m'a larguée pour une jeunette.
Son assistante.
Une secrétaire.
Voilà. Et au sein des enfants, il y a ceux qui peuvent, notamment comme Vanessa Paradis, qui ont un enfant, mais qui vivent la vie d'une mère célibataire, en ayant fait la promesse d'ailleurs d'être toujours au même endroit pour être sûr que son enfant puisse la retrouver. Donc elle incarne une statue de rue, voilà, au bord au quai de Seine. Il y a celle qui aimerait avoir des enfants, c'est Camille Cotin, et qui n'y arrive pas. Et puis il y a celui qui a plutôt des pensées morbides ou suicidaires. On ne sait pas trop d'ailleurs. Si c'est le génie de l'informatique extrêmement brillant qui est en manque d'amour ou de reconnaissance de son père et qui par moments fait peur à ses sœurs ou à sa famille, on se demande s'il ne va pas sauter dans la Seine ou mettre fin à ses jours. On va en reparler de ce film dans quelques instants parce que je sens bien que je suis en train de vous perdre, Jean-Pierre, et revenir je voudrais savoir moi si mes camarades de jeu Leïla, Agnès, Albert et Daniel vous connaissent bien ou pas.
Évidemment,
d'accord.
Non, c'est pas vrai parce que ça dépend des questions, hein.
Presque gênant comme ça.
Allez, on y va. Allons-y. Question sur Chantal Lobby. Que faisaient les nuls pour lutter contre le trac avant de passer à l'antenne?
Ils se touchaient les fesses.
Joli. Oh là. Un point.
C'est vrai, je suis au taquet.
Alors, ça, quand on parle de cul, il y a du monde.
C'était bien, on était jeunes encore. Maintenant, je ne voudrais pas leur toucher le cul. Ouais, bah... Et pareil. Hein.
Nagui joue à Chabit, lui.
Mais jamais de la vie, j'ai jamais vu ce jeu. On peut arrêter de colporter des idées.
C'est quoi Chabit, d'ailleurs ? C'est quoi ce jeu ?
Non, mais c'est rien.
Pour moi, c'est un non-juif.
Ça a été inventé par...
Moi, je croyais que c'était Chabit.
Non, c'est Shabbat. Shabbat, c'est le vendredi soir.
Rabbin Shabbat.
C'est la même chose. C'était une... Vous passiez les fesses ou vous touchiez ?
On touchait.
Touchez.
On touchait les fesses. Sur nos fesses.
Je m'en souviens.
Comme un porte-bonheur,
mais pas des
comme
invités.
Comme un porte-bonheur.
Et quand on est la seule
non,
fille,
c'est
parce que moi j'ai fait les nuls l'émission.
Oui,
non,
mais ils n'ont pas touché les fesses.
Ah, non, non, pas les invités.
Non.
Nous, entre nous.
Et quand on est la seule fille ?
Seule fille, c'est génial.
Ah bon ? Tu veux exprimer quelque chose ?
Quand on est la seule fille, c'est génial.
Très bien.
Pourquoi ?
Parce qu'on les a tous pour soi.
Ah, et inversement, parce que les garçons aussi ont...
Oui.
D'accord, très bien.
J'en
vous avez compris ce qu'on va faire pour la pour
non,
la bande.
Non, mais je veux dire.
Jean-Pierre Bacry, ce qui peut vous surprendre, a une phobie.
Les voix d'enfants.
Laquelle ? Non.
Elle est, enfin, les adultes qui émettent des voix d'enfants.
Non.
C'est vrai.
Ça en fait partie, mais c'est pas une phobie.
Donc j'ai marqué un point quand même. C'est vrai.
Physiquement,
il a peur. Il a peur de quelque chose.
Les insectes, les serpents.
Pas mal de personnes ont cette phobie.
Le
vide.
Non. Mais arrêtez.
L'avion.
Mais oui, mais non, mais
je. Non, mais c'est ça.
Super bien.
Bah moi aussi, je l'ai, la phobie.
Deux points pour Aliès.
Moi aussi.
Vraiment peur de l'avion. Il paraît que ça soigne, d'ailleurs.
Je vais gagner.
Est-ce que vous avez cherché à faire des stages, chère France ?
Moi, je l'ai fait.
Ils font des stages.
Mais c'était encore pire après.
Ça n'a pas marché.
T'as toujours peur de l'avion ?
Non, mais je prends une bouteille maintenant, je picole.
Parce que... Et tous les alibis sont bons hein, quand on est alcoolique.
Non, non, mais on m'a dit que c'était bien. Ça désinhibe. Jean-Pierre, t'as pas essayé ?
Non, je compte pas du tout.
Mais t'as peur aussi des ascenseurs,
je crois.
Moi, je suis claustro un peu. Donc, c'est surtout ça ma peur de l'avion, d'être enfermé sans pouvoir ouvrir la porte.
Et vous, Jean-Pierre, c'est de se dire comment ça tient en l'air ce truc-là avec 300 personnes à bord, c'est ça ?
Exactement. Et on a beau m'expliquer, je dis ouais, d'accord, mais je vais pas y aller peut-être.
Mais vous le prenez quand même ?
Je le prends plus.
Du tout.
Je le prie, mais je le prends plus.
Je suis bien rentrée avec toi de Montpellier quand on a fait Didier. On est rentrés par le train tous les deux parce qu'on ne prenait pas l'avion.
Je ne prenais plus déjà. Non, je ne prends plus depuis 90.
Donc c'est que le train et vous restez que qu'en France, en Europe, vous vous interdisez d'aller aux États-Unis, en Amérique du Sud.
Je m'interdis à la fois, j'y suis allé, puis à la fois. Non,
12 heures de vol.
Le truc, c'est que je ne suis pas un vrai touriste. Enfin, je veux dire, je ne suis pas un bon touriste. Je ne suis pas un aventurier, je n'aime pas visiter les. Je m'en fous un petit peu, j'aime le confort. Donc lorsque par exemple, quand je partais à l'étranger, je partais à New York, parce que c'est une ville qu'on a le même confort, etc. Je suis pas un aventurier du tout.
Il faut prendre l'avion quand même.
Je suis très casanier, j'aime beaucoup mes amis, ma maison.
Mais pardon, New York, il faut prendre l'avion, comment vous faites pour y aller sans
J'y suis allé lorsque je le prenais.
Ah d'accord, maintenant plus.
En vous, 80.
Vous êtes interdit de New York.
Je suis allé au CBGB's.
C'est quoi ça ? C'est une boîte ?
C'est la boitasse à la mode.
La boitasse. Ouais,
de l'époque, tout le monde allait là.
Ah oui, non, c'est là où les Ramones faisaient des concerts. C'est une boîte très rock. Oui, c'est ça. Ouais, très bien. Si tout devait s'arrêter, ce qui n'arrivera pas pour Chantal Lobby, quel autre métier pourrait-elle faire ?
Chanteuse.
Ah, c'est vrai qu'elle aurait pu, mais c'est pas ça.
Ah bah
voilà. Là aujourd'hui.
C'est quoi ?
Non.
C'est pipé. Elle le sait pas elle-même, c'est n'importe quoi votre truc.
Elle l'a dit dans une interview en 2010.
Oh mais... ah. 2010.
Qu'est-ce elle débourrait. Elle descendait de l'avion. Oui, je me souviens, moi aussi.
Alors je vais citer la source, c'est dans le journal de Clermont.
Bah alors c'est bien pour ça. Quand je vais là-bas, on fait pas que de sucer de la glace. Hein.
Ah, donc t'as peur en avion et t'as peur à Clermont, c'est-à-dire partout tu picoles en fait.
Alors vas-y, c'était quoi mon autre métier ?
Quel métier ? Et d'ailleurs, je ferai comme toi. Si je vais tout arrêter aujourd'hui, je ferai le même
instituteur.
Non.
Joueur de pétanque.
C'est pas un métier. Huissier.
Non.
C'était pas de la poterie.
Douanier.
Aquarelliste.
CRS.
Non, rien. Un métier.
Jardinier.
De partage.
De partage.
Prêtre. D'accueil et de partage.
Hôte, maison d'hôte, non.
Pas loin.
Hôtelière,
restauratrice.
Exactement.
Ah oui, restauratrice, c'est vrai.
Monter un resto avec vos deux frangines.
Oui, c'est vrai.
Qui sont d'excellentes
cuisinières. J'aurais bien aimé parce que ma sœur cuisinait très bien et tout le temps je lui dis on devrait ouvrir un resto, ce serait sympa, voilà. Donc peut-être, oui, voilà. Ça me redonne l'idée.
C'est pas mal, non ?
C'est pas mal.
Restaurant avec spécialité
niçoise. Merci Nagui de m'avoir rappelé ça.
On fera ça ensemble. Quand Jean-Pierre tombe par hasard à la télévision sur ce genre de programme, il zappe aussitôt. Mais sur quoi ?
Télé-réalité.
Non.
Le karaoké télévisé.
Non. Alors c'est pas le genre de programme, c'est quand c'est quelqu'un qui est dans un programme.
Ah.
Dès qu'il voit une personne, il zappe.
Il faut qu'on cite cette personne.
Ouais, il faut la trouver.
Ah, c'est un individu, c'est pas un métier.
Non,
c'est
non,
pas
non, une catégorie c'est, un, c'est un individu, enfin c'est ce qu'il en reste.
Jean-Marie Le Pen.
Loana.
Non.
Marine Le Pen.
Non.
Berléand.
Non.
Christian Le Pen.
Daniel Prévost.
Non, c'est pas politique, c'est pas
un comédien. Je vois pas et ça me fait peur.
Moi aussi, ça me fait peur.
Vincent Lagarde. Lui-même.
Exactement. Bien vu.
Joli.
Deux points pour Cadour cette semaine.
Vous n'aimez pas voir vos films à la télé?
Non, mais je ne suis pas le seul. Il y a plein de gens qui
n'aiment pas se voir. Chantal Lobby aussi n'aime pas se voir.
Oui. Je ne suis pas du tout l'exception. Il y a plein d'acteurs qui ne supportent pas de se voir.
C'est dur. Hein.
Je connais aussi des acteurs qui adorent se voir. Ah oui. Mais ils sont très spéciaux. Oui,
ils ont
je veux dire que dans la vie,
ils ont un miroir au-dessus du lit.
On en reçoit beaucoup ici.
Ah, voilà, non, pas lui. Non,
celui que je pensais. Ils sont malades, mais autrement, c'est très difficile.
Pourquoi Chantal Lobby a-t-elle un jour abandonné l'écriture d'un scénario?
Elle était bourrée.
Elle était enceinte. Non, elle est tombée enceinte.
Elle était ni à Clermont ni dans un avion. Elle n'était pas enceinte.
Parce qu'elle a lu le même scénario quelques temps après qui était beaucoup mieux, où c'était la même histoire?
Non. Elle l'a écrit, elle a commencé, okay. Il était pratiquement prêt, puis okay. Après...
Elle a perdu. Elle s'est fait voler.
Exactement.
Oui. Oh là là. Oh, wow. On m'a volé mon ordi.
Mais
oui.
Non.
Oui, et j'avais rien sauvegardé. C'est un truc sur des vieux.
Mais
évidemment, tu t'en souvenais pas. Quoi.
Ben, si, je m'en souvenais, mais de refaire tous les dialogues, de tout recommencer, ouais. j'ai plus envie.
C'est épouvantable, ça.
Mais c'est vrai ou c'est une excuse parce que vous n'avez rien
écrit?
Ah
non, c'est vrai. C'est la vérité.
Est-ce qu'il a été refait par quelqu'un d'autre?
Non, je pense pas. J'avais commencé par un anniversaire. C'était un anniversaire qui commençait. On pensait que c'était des gosses. On ouvrait, c'était des vieux. Et après, les vieux, c'était comme dans un collège. Je les faisais vivre comme dans un collège, la remise des prix, tout ça, c'était enfantin. Je voulais qu'on ait une belle image des vieux.
Vous avez encore toute l'idée?
Ouais. J'ai l'idée, mais la recommencer maintenant, la réécrire, ouais, trouver les dialogues et tout.
Est-ce qu'elle n'a plus une belle image des vieux du tout maintenant qu'elle a vécu le truc, elle est bouffe.
C'est plus pareil.
Vous avez pris ça comme un signe du destin en disant si on m'a piqué l'ordi avec le scénar, c'est qu'il ne fallait pas que je le fasse?
Oui, sans
vous
doute.
Êtes un peu
moi, c'est souvent je me dis ça.
Ouais.
C'est souvent je me dis ce qui doit se faire, se fait. Voilà.
Dis-lui la phrase de Groucho Marx. Que...
Ah oui. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé.
J'adore, mais elle est tellement belle.
Elle est belle cette phrase.
Tellement belle.
Elle est juste.
On en finit avec Jean-Pierre. Non, dernière question sur. Non, mais non. Quel exploit physique unique, Jean-Pierre Bacri est-il capable de faire? What?
Jean-Pierre, vous avez une idée ou pas?
Moi, un exploit physique, ça me ferait mal.
Marcher sur les mains.
En 2014, vous l'avez dit dans Télérama.
Mais je peux dire si.
Un exploit physique.
Télérama.
C'est
cracher du feu.
Rester allongé au même endroit pendant très très longtemps.
Ah voilà, par exemple. Ah, oui.
C'est pas cracher du feu, mais c'est un rapport avec
jongler,
la bouche.
Faire de la des grands.
Ça a rapport avec.
Faire des ronds avec la fumée.
Des ronds avec la fumée.
Non.
Faire des carrés avec la fumée.
C'est un rapport avec la bouche.
Ah jouer avec mes dents.
Mâcher. Ah jouer avec des dents. Jouer avec des dents. Bruxisme.
Non. C'est avec la bouche et c'est jongler.
C'est sexuel.
On va vous présenter
avec
la bouche,
avec des balles de ping-pong.
Alors c'est avec une balle. Enfin c'est avec quelque chose.
Il
arrive
à faire tenir en équilibre une balle en soufflant.
Sur sa langue.
Exactement. Ah, un petit poids.
Non c'est faux,
mais
c'est
chacun
faux.
Chacun sait le faire.
Non,
ça.
Vous rigolez.
Le petit poids,
c'est hyper dur.
Attends, j'ai pas compris.
Le petit poids, il est capable en soufflant de tenir en équilibre un petit poids au-dessus de la
main. Mais ça tout le monde sait le faire, tous les écoliers, tous les gens ont fait ça.
Jamais de la
main, j'ai
jamais
pu. Un petit poids qui se mange.
Un petit poids, bah, oui.
Attends, excusez-moi, Chantal Lobby, quel est l'autre petit poids qui se mange pas? Quel est l'autre petit poids qui se mange pas?
Les poids qu'on soulève.
C'est pas un petit poids.
D'un kilo.
L'alter.
Vivement qu'elle nous soit restaurant.
Je croyais que c'était jouer de la musique avec mes dents.
Je sais pas ce que c'est ça.
La musique avec mes dents ou avec mes joues?
C'était vrai.
Popcorn.
Popcorn.
Père,
il fait ça aussi. Il a tous les talents. Attention.
Alors, un nouveau boulot.
Si on a enfin un nouveau boulot.
Voici
Jean-Pierre Bacri, 2019, Avignon.
Revenons à photo de famille.
Ah non, continuons.
Ah non.
C'est drôle.
Il y a toutes les générations, des petits-enfants, des enfants, des parents, des grands-parents.
Encore le film?
Oui, revenons au film. Et il y a des couples recomposés aussi, il y a des naissances annoncées, il y a des décès malheureusement attendus.
Arrêtez avec les décès.
Il y a tout dans ce film. Mais quand je dis que c'est une comédie à la fois avec de l'humour et de l'humanité, comment vous la décririez? C'est une comédie quoi? Romantique, dramatique, comment la décrire?
Elle est tout à la fois.
Gériatrique.
J'irais pas jusqu'à dire romantique quand même.
Romantique.
Non, pas romantique.
Non, j'irais pas jusqu'à dire romantique.
Ah, pardon, pas romantique.
Enfin, elle est romantique pour un des personnages. C'est toujours pareil, mais chacun des personnages vit des choses tellement, tellement différentes.
Une comédie dramatique.
D'accord.
Et puis c'est le tout le monde sur le film qui est en cause. Je veux dire, c'est plus votre envie de classer qui devrait être en cause.
Alors, oublions de le
classer. Non, mais je veux dire, vous êtes pas le seul, je suis comme vous, je veux dire, je donne pas de leçons, mais on est tous là tout le temps à essayer de caser dans un tiroir pour plus s'en occuper.
On essaie de dire quel genre de film.
Bah oui, mais
c'est un film où on rit ou on pleure.
Comédie dramatique.
Voilà. Familiale.
Alors ce qui est incroyable et ce qui est assez marquant, c'est que on peut dans une même scène rire et pleurer. C'est-à-dire qu'on est, je disais, sur le fil. C'est-à-dire que toutes les situations, alors souvent ce sont des situations dramatiques qui peuvent prêter à rire, mais là on ne sait pas de quel côté on va basculer quand on voit le film. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti.
J'ai ressenti exactement comme ça aussi. Moi, on ne sait pas si on doit rire ou pleurer.
Moi, je trouve, je suis peut-être un peu hors sujet, mais je tiens à le dire, je trouve que cette fille écrit de façon brillante.
Cécilia Roux.
Cécilia Roux, je trouve que c'est une artiste formidable.
Moi aussi.
Moi qui ai un goût pour l'écriture, quand j'ai lu ce scénario, page après page, j'avais pas une réserve, je trouvais ça fin, drôlissime, intelligent, émouvant. Je passais comme ça, je suis allé au bout, je me suis dit évidemment que je le fais, paf, j'ai posé le scénar. C'était... Quand c'est écrit comme ça, on est tellement content de rencontrer quelqu'un. Parce que c'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un que là, tout d'un coup...
Elle va bien avec son écriture, la personne humaine.
Elle a l'humour et la sensibilité qu'elle a dans ses films.
C'est des beaux personnages qui vous sont...
Ce que j'allais dire, oui, vous êtes reconnu dans les histoires, enfin sans que ce soit forcément les vôtres, mais enfin vous avez trouvé ça juste, parce que je sais pas toi, mais enfin moi j'ai trouvé vraiment que c'était juste. Alors, les familles sont souvent comme ça.
Oui, ça pourrait être une vraie famille, on pourrait rencontrer le week-end.
Moi je me suis retrouvée là-dedans aussi, dans plein de choses.
Alors, sans s'identifier, encore une fois, mais on peut reconnaître des comportements normaux, exacerbés, avec des situations où on est ravi d'être avec sa famille, et puis en même temps, au bout de 48 heures, ça commence à bien faire.
Au bout de 48 secondes, dans le film.
Oui, même les conneries qu'on peut faire avec nos enfants, en voulant être trop bien avec eux, et puis total, c'est pas ça, quoi.
Notamment, il y a un quiproquo très drôle, l'annonce d'une grossesse.
De la naissance.
Voilà. Une naissance qui n'en est pas une, enfin, qui n'est pas la bonne.
Oui, c'est ça.
Mais qui est dramatique quand même.
Faut dire que vous incarnez une maman qui est psy, donc en plus déjà il y a la difficulté de parler à sa mère et en plus quand elle psy, se dire voilà, et qui fait irruption comme ça dans la vie d'une de ses filles notamment, et qui
a un comportement de psy,
voilà,
avec sa fille,
qui vient observer.
C'est dramatique, mais je trouve que c'est souvent le cas.
Oui, mais non, c'est drôle lorsque votre fille vous parle et que vous l'écoutez en disant
c'est dans votre cabinet. En plus.
Et puis alors celui qui vous a quitté dans le film, Jean-Pierre Bacri, qui a refait sa vie avec
beaucoup de monde,
sa secrétaire.
Avec une jeune femme,
sa secrétaire en plus. Mm-hmm. Ça choque les enfants.
Oui, mais c'est une jeune femme qu'il apparemment il l'aime. Hein. Il est amoureux d'elle.
Il me semble qu'il est amoureux. Oui.
Il est amoureux.
Et il est tellement à fleur de peau qu'il ne veut pas tout de suite montrer ses sentiments, les communiquer, dire je t'aime, que ce soit à sa propre mère ou à ses propres enfants. Il a une espèce de pudeur par rapport au.
Ouais, il a une pudeur vis-à-vis de sa mère. Il souffre de ne pas être reconnu, parce qu'elle ne le reconnaît pas.
La scène est dans la bande-annonce, mais au début du film, on peut le trouver un tout petit peu agressif.
Bah, c'est-à-dire qu'il n'est pas agressif, il est surtout indifférent.
De toute façon, elle oubliera tout, ça va, je lui apporte à manger, ça va.
Oui, c'est
va
ça, et puis il est un peu indifférent à la famille. Enfin, je veux dire, il n'y est pas dans cette famille, donc il retrouve les enfants parce qu'il y a un enterrement, etc. Mais il n'est pas très famille. Au fur et à mesure, il va découvrir des choses, mais voilà.
D'ailleurs, les réunions de famille, quelle que soit la cause, je vais arrêter de parler de la cause, mais les réunions de famille peuvent donner tout et son contraire. Allez, c'est-à-dire que ça peut être l'occasion de rabibocher tout le monde et de se retrouver, de se faire des gros câlins, comme exploser avec des règlements de compte à hockey choral permanent.
Une petite phrase suffit. Hein.
Il y a le personnage de Vanessa Paradis qui essaie toujours de tout arranger. Elle est d'accord avec l'un, d'accord avec l'autre.
Ouais,
elle est diplomate, c'est ça.
Diplomate, par rapport à Camille, oui.
Ouais, et Camille Cotin, elle est à vif. Hein.
Elle est à vif, tout le temps.
C'est le dragon, ça, c'est son petit nom.
C'est le dragon. Petit mot d'amour. Petit mot d'amour.
Tu l'as vu, Agnès, le film ?
J'ai
adoré. Ça t'a pensé quoi ?
Moi, j'ai vachement aimé. Je l'ai vu il y a un bout de temps. Je l'ai adoré. Je trouve ça dommage qu'il y ait cette scène dans la bande-annonce, qui est une scène extraordinaire avec votre mère.
Avec sa maman.
Dommage. Ah, qu'elle soit déflorée dans la bande-annonce.
Ouais, parce que c'est une telle émotion quand on est dans la salle.
Je suis d'accord.
Trois fois le film et à chaque fois.
J'avais pas compris la première fois.
Non, mais je suis d'accord. J'avais vu la bande-annonce et je m'attendais. Si vous voulez un café, Jean-Pierre, n'hésitez pas.
Vous avez Louis Fine.
Non, vous avez la voix forte.
Merde.
Mais en l'occurrence, je l'avais vu dans la bande-annonce.
Et t'as pleuré quand même.
Et je me suis fait avoir quand même dans le film.
Non, non, moi aussi, évidemment, mais j'aurais aimé avoir la surprise.
Ça marche.
Moi aussi, c'est ma scène, ça.
Alors moi, ce
j'ai failli pleurer.
Cette notion de bande-annonce, on ne met rien et on laisse aux personnes tout découvrir dans les. Moi, je suis pour qu'il y ait tout dans la bande-annonce.
Ah ouais.
Non.
Franchement, ça me gêne pas.
Moi, je suis pour ne jamais regarder aucune bande-annonce. Ouais.
Ah bon, ça c'est encore autre chose. Non voilà. C'est une leçon. Il y a une morale dans cette histoire. C'est une que Cécilia veut donner. Comment elle vous a présenté le film d'ailleurs, en vous disant juste c'est une histoire de famille, point.
Oui, c'est on l'a lu. Déjà, on a lu le scénario et puis quand on le prend, comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, on se le prend en pleine gueule le scénar. Et puis.
Oui, voilà. Donc il y a pas de problème. On n'a pas. Elle n'avait pas à nous faire l'article.
On a fait quelques lectures ensemble.
On a dit oui tout de suite. Voilà, on a fait des lectures.
On a fait des lectures tous ensemble. Tout le monde était venu.
Elle donne bien des indications pour expliquer le parcours de l'un ou de l'autre.
Bien sûr, mais il n'y a pas de point de vue moral.
Enfin, d'accord. Pas du tout.
Il me semble pas.
Et le fait que vous ayez fait la lecture tous ensemble, comme si vous étiez une troupe de théâtre.
C'est génial ça.
Est-ce que le tournage s'est passé de la même façon, c'est-à-dire caméra à l'épaule et là aussi tout le monde jouait en même temps?
Ben c'est vrai que les lectures, il y en a pas tout le temps, des lectures avec tout le monde.
D'accord, c'est pas systématique.
C'est pas systématique. Ouais. Hein. Là, tout le monde.
Agnès fait ça, mais c'est bien. J'aime beaucoup.
Moi, je trouve ça formidable de faire ça.
Ouais. Et ça donne à réfléchir aussi.
Oui, parce que la question.
C'est pas que des vannes et que de l'humeur ou de l'humour.
Ouais. Non, c'est très très drôle. Ça, en effet, faut le dire. Moi, je dirais comédie tout court, en réalité, parce que le reste, c'est inéluctable et c'est le cours de la vie. C'est ce que tu as dit au début de l'émission. Et puis, la vraie question qui se pose dans le film et dans chaque famille, c'est qu'est-ce qu'on fait de mamie? C'est une vraie problématique.
Oh, bien sûr, ça, tout le monde l'a. Oui.
Et personne n'y répond forcément de la même façon au sein d'une famille, parce qu'on a la culpabilité, parce que quand on est les enfants, on a souvent une distance, alors que quand on est les petits-enfants, on a une proximité qu'on peut expliquer que par l'enfance, la façon dont on a grandi. Et c'est ça qui est aussi très doux dans ce film, c'est se dire on n'a pas tous les mêmes raisons de réagir de façon très très différente à un même problème. C'est triste de parler d'un problème quand on parle d'une grand-mère, mais ça reste un problème dans nos vies en fait. Et je trouve que le film est très très beau de ce point de vue-là, parce que c'est pas manichéen et c'est pas t'es un salaud parce que tu veux pas t'occuper de mamie. Non, ça engage d'autres choses. Voilà. Et ça, j'ai trouvé que en effet l'écriture de Cécilia Roux, elle était.
Il y a quand même des salauds qui veulent pas s'occuper de mamie dans certaines familles.
Oui.
Mais non, mais t'es pas salaud pour autant, tu veux pas t'occuper de mamie.
T'as pas
tort.
T'as pas tort.
On peut l'être. Je suis désolé, on peut l'être.
Il y en a qui laissent leur parents dans l'oubli.
De l'abandon complet, ce qui n'est pas du tout le cas du film, puis ils se posent des questions, et c'est pour ça que le film est très humain, qui m'a beaucoup plu. Mais dans la réalité, il y a des gens qui se comportent de manière infâme.
C'est sauvage, dans la réalité.
Sauvage.
Non, moi je parlais des personnages dans le film. C'est-à-dire que chacun a un moment son itinéraire.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, celle qui est au point de départ en train de dire, mais vous devez vous occuper de votre grand-mère, vous devez faire attention à elle. Elle est sortie seule. Ça aussi, c'est dans la bande-annonce, donc je ne déflore rien. Elle est sortie, c'est dangereux. Attention. C'est finalement celle qui est la plus extérieure
à cette famille. Oui, c'est Claudine. Oui, oui, tout à fait.
Qui est l'ex-épouse. L'ex-épouse. Oui, elle est la mère des enfants, mais elle n'est pas directement concernée par cette grand-mère. Et or, c'est elle qui va l'aider, lui parler et rappeler un peu toute la famille au minimum.
Oui, puis elle a le rôle de Camille Cottin aussi, qui est la plus engagée finalement.
Elle est engagée tout de suite. Hein. Voilà. Dès qu'elle apprend qu'on risque de placer la grand-mère dans une maison, elle devient folle. Hein. C'est pas voilà.
Il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc en l'occurrence, chacun va s'en occuper. Absolument. À tour de rôle. L'idée venant aussi du personnage de Vanessa Paradis.
C'est vrai.
Et n'est pas accueillie de la même façon par les uns et par les autres. Et puis même Mao, qui au-delà de la difficulté de porter ce prénom, ce qui est un bon effet aussi dans le film, au-delà de lui, qui est un informaticien surdoué dans le monde du jeu, avec peut-être des pensées sombres, lui aussi va se découvrir un cœur, mais
énorme,
gros comme ça. Ouais. Ouais, non, mais j'ai adoré ce film.
Et puis, où on finit sa vie aussi, c'est ce souhait, cet ultime souhait, où est-ce qu'on veut finir ces derniers jours, les passer où, dans les endroits de souvenirs, de famille, ça forcément, ça explique qu'on puisse pleurer aussi un peu dans ce film, mais c'est vraiment très plaisant. Ça, c'est bizarre à dire, mais c'est très plaisant.
Ça nous touche. Ouais. Tous.
Maréchal Ganache, ce film va avoir un véritable succès.
Écoute, il y a des jours, mon cher Nagui, où je me pose la question de savoir pourquoi vous me posez des questions.
Pour avoir une réponse.
La raison pour laquelle le film Photo de famille va avoir du succès, mais vous venez de les donner dans un français aussi approximatif qu'interminable. Ceci dit, en dépit de ma cataracte, j'ai trouvé cette comédie, comme dit Leïla, ou cette comédie dramatique, comme dit Chantal, admirable. Au point que pendant une heure et demie, je suis resté assis, oubliant les terribles élancements que je ressens depuis mon empalement sur le bambou mal affûté d'un piège viet. C'est en 1953, au Tonkin.
Oui, oui, merci. On n'a pas le temps.
Ce film m'a ému aussi pour des raisons plus personnelles. Quand mon épouse, Edmond, la maréchale, s'est éteinte pendant que je l'honorais une dernière fois, eh bien, comme dans le film, mes petits-enfants se sont réunis autour d'un pain perdu. C'est, vous riez, mais c'est Morin qui m'a suggéré ce gâteau. Pour décider de ce qu'ils allaient faire de moi.
C'est délicieux, le pain perdu.
Se réunir pour décider, un peu de sérieux, de ce qu'ils allaient faire de moi, papy ganache. Et c'est comme ça que j'ai attiré au vieux gland mon iPad.
iPad, pas iPad, c'est une tablette.
iPad, laissez-moi. Mais le souvenir d'Edmond me noue la gorge. Et je passe donc le microphone à Jean-Philippe Pétain, le neveu du bon maréchal. Auditeur, auditrice de Radio France Inter, comme l'avait dit mon grand-oncle Philippe dans son message au maire de France du 23 mai 1941, une très belle année. La famille est la meilleure garantie du relèvement de la France meurtrie. Monsieur Bacri, Madame Lobby, au nom de mon grand-oncle, je vous félicite de tout cœur d'incarner un grand-père et une grand-mère soucieux du sort d'une mamie française. Je déplore néanmoins la réaction odieuse du Rastakouer apatride Nagui. Quand Jenby, le rédacteur en chef courageux, fils et petit-fils...
fils et filles oui,
fils et filles,
on en apprend.
Et petite fille de miliciens, le rédacteur en chef de ce programme radiophonique lui a annoncé votre venue. Quoi ? Là, c'est
Nagui qui parle. La voix, c'est n'importe quoi.
Quoi, fils de chien ? Encore Bacri, encore Lobby, ils vont finir par se croire chez eux. Pas taper, mon bon maître. Là, c'est JNB.
Oui, on a compris.
Les jeunes comédiens du film n'étaient pas disponibles. Mais bougre de raclure de Coulommiers, hier, on a eu Balmer. Aujourd'hui, c'est Bacri et Lobby. On va recevoir Arditi et Weber. La bande originale, ça devient le chenil des vieux cabots. Et moi, les vieux clebs, ça m'a toujours fait flipper. Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio Française, comment se prépare cette bande originale? Alors, n'écoutez surtout pas cette émission. Adieu.
Merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Le film, donc, signé par Cécilia Rouault, c'est son deuxième film, c'est ça, me semble-t-il. Il s'appelle Photos de famille, donc, et il est en salle ce mercredi 5 septembre. Ça ressemble à demain, tellement les choses vont vite. Encore un dodo. Et le film sortira. Vanessa Paradis, Camille Cotin, Pierre Deladonchamp, Jean-Pierre Bacri, Chantal Lobby, Laurent Capelluto, Marc Ruchman, Claudette Valquer, Jean Aviad, Émilie Cazenave, Guylaine Londez, Sandra Niaquet, Rio Vega, Sadio Niakate, Béran Angère McNeese sont entre autres au casting de ce film qu'on vous encourage à voir parce qu'il est extrêmement agréable et il fait du bien. Et je pense que quand vous sortirez du film, vous aurez eu envie d'une chose, quel que soit le contexte familial dans lequel vous êtes, faire quand même des câlins. Soit à votre maman, si vous avez encore la chance de la voir, ou à votre grand-mère, si vous avez encore la chance de la voir.
Si vous n'avez pas chopé une vieille dans la rue.
Ça donne envie de faire des câlins. Ouais, c'est un film câlin, voilà. C'est comédie câlin.
Pas mal.
Comme Agnès, on a envie de faire des gagnants. Agnès sur scène.
Bonjour, Chantal, salut. Jean-Pierre, namasté. Je m'appelle Agnès, je suis la nouvelle chroniqueuse mi-drôle, mi-moche de la maison. Voilà. Je suis hyper intimidée de vous rencontrer ce matin, parce qu'évidemment, comme toute apprentie comédienne un peu suceuse, bah, je suis fan absolue de vous. Hein. Pour moi, dans ma tête, il y a vous
un
deux.
Peu, pardon ?
Suceuse, voilà. D'accord. Pour moi, il y a vous deux et il y a Catherine Hepburn, c'est tout. Voilà. Et là, je trouve qu'il y a une vraie grande proximité à la fois géographique et sensorielle sur Catherine Hepburn. Voilà.
Laissez
moi me concentrer, je suis déjà tellement intimidée par... J'ai du mal à vous regarder dans les yeux. D'ailleurs, je vais essayer de me concentrer sur la grosse poutre devant moi.
Non, ça,
celle
c'est
derrière
moi.
Vous, Nagui, derrière vous. Jean-Pierre, Chantal, je vous ai rencontré en 98. J'avais 8 ans, la première fois que j'ai regardé Didier, parce que vous êtes tous les deux dedans, au cas où quelqu'un aurait oublié. Film qui m'a fait énormément de bien. Faut bien vous imaginer qu'à l'époque, chez mes parents, l'ambiance, c'est plutôt William Scheller, Cesaria Evora, Mémorial de la Shoah. Donc, autant dire que c'est vraiment une chance qu'aujourd'hui, je fasse des blagues devant vous. Et non pas une thèse sur l'épilation définitive au miel comme solution finale, hein. Bref, c'est pas le sujet.
Oh,
voilà. Oh là là, je vous le conseille. J'ai tellement regardé Didier que j'ai fini par ressembler physiquement à Isabelle Gélinas. C'est pas flagrant ce matin parce que quand je m'attache les cheveux comme ça, je ressemble plutôt à Adrien Brody, je le sais. Mais voilà, c'était censé être une vanne, mais pas de problème. J'accueille votre rire, Nagui. Namasté. Bref, Chantal, Jean-Pierre, moi je vous aime. Je vais même vous le dire, je vous préfère à pas mal de mes tantes. Je suis désolée si certaines nous écoutent. Mais on va pas se mentir, faut le dire, la famille c'est quand même l'enfer. C'est quand même le lieu de d'épanouissement personnel le plus toxique qui existe. Hein. Oui, entre les non-dits, les pièces rapportées qui savent pas tenir une fourchette, l'odeur des animaux domestiques. Non, c'est catastrophe. Et pire que la famille recomposée. Ça, photo de famille, le dépeint avec brio. Je sais de quoi je parle, je suis moi-même belle-mère depuis mes 25 ans. Voilà, ma belle-fille a 4 ans et demi, elle est extrêmement poilue et elle a un nom de pute moldave.
Mais ça va pas.
Je vous jure, elle s'appelle Rona, mais tout le monde l'appelle Zlatounette dans l'intimité. Je vous parle évidemment de la très grosse chatte de mon mec, pas d'un vrai enfant, d'un chat.
Ah.
Voilà, vous êtes soulagés vraiment. Il l'a acheté avec son ex sur eBay. Tout ce que je dis est vrai, il n'y a pas une seule vanne dans ce que je vais vous dire ici. Une énorme chatte qu'il a achetée sur eBay.
La chatte de mon
ils l'ont achetée sur eBay, puis ils se sont séparés. Voilà, ça arrive. Et c'est vrai que qui abandonne sur le bas-côté de la route une énorme belle chatte ? Personne. Donc on se retrouve 3 ans plus tard à faire une garde alternée avec l'ex de mon copain.
Sérieusement ?
Tout est vrai. 3 semaines, 3 semaines. C'est compliqué. Moi, je suis sa belle-mère. C'est exactement comme dans le film. C'est compliqué. Cette chatte ne mange que du bio, ne se déplace qu'en Uber, écoute TSF Jazz et ne peut pas dormir seule. Voilà, parfois je me... On dirait vous ? Parfois, je me dis que comme belle-fille...
C'est pas mal. La confidence de Chantal.
Parfois, je me dis qu'une adolescente menstruée avec des piercings sur la langue et une problématique chlamydia, ça aurait été plus simple pour moi. Tout ça pour vous dire quoi ? Que la famille peut détruire l'estime de soi. Voilà, il faut le dire. Il faut le dire franchement aux auditeurs. Certes. Et moi, je suis là ce matin pour que chacun récupère un petit peu du morceau d'amour propre qu'il a peut-être perdu dans le poulet familial de chez papa maman dimanche midi.
Daniel.
Donc Daniel, je vous propose un petit exercice un peu bien-être. Ouais. Hein. Je suis un genre de Pierre Rabhi pour vous, Pierre Rabhit quoi.
Vous,
hein,
avez, vous avez même le physique de
voilà,
Pierre
Rabhit. J'ai le physique d'Adrien Brody et Pierre Rabhi, quelle chance. Je vais vraiment m'en sortir. Je vous propose de faire tous les matins, de vous faire à vous-même 3 petits compliments. Que vous soyez cocu, chauve, marseillais ou les 3, ou Daniel. Faites-vous 3 petits compliments à vous-même. Ça ne mange pas de pain et ça embellit le quotidien. Allez-y, moi je me lance. J'ai une très grosse poitrine imaginaire. Je suis bien payée chez Inter et je m'occupe très bien de la chatte des autres. Voilà, je me sens déjà beaucoup mieux.
Ah,
Namasté.
Tu t'inventes.
Je me fais, tu peux faire des compliments. Il faut essayer de faire 3 compliments sur les autres
mais
pour vous, si vous voulez, Nagui. Non, mais non, vrai. Chaque matin, faites-vous 3 compliments à vous-même.
Mais non, t'as parlé d'un gros salaire à France Inter.
Ah bah
d'une
oui,
poitrine.
Mais c'est une blague.
Parmi les deux, il y a un intrus.
Il y a un intrus. Merci.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Dans cette bande originale, la bande originale justement de nos invités Chantal Lobby et Jean-Pierre Bacri, on va partir dans les années 50 avec Chantal Lobby qui écoutait l'excellente Dalida.
Comme prima, tu me donnes tant de joie que personne ne m'en donne comme toi.
C'est fou, mais à l'écouter, il y a une énorme tristesse.
Ouais.
Je vais y arriver.
Ah, je l'ai découvert, moi, dans ces années-là.
Attends, on va la remettre au début. Non, mais c'est... arrête là. Quand elle dit « Tu me donnes tant de joie », on a l'impression qu'elle est en train de pleurer quand elle le chante. Écoutez.
Parce qu'il a dû se barrer.
Ah, il a dû se barrer.
Et donc, voilà.
Tu vois ?
Personne ne m'en donne comme et toi. C'est ta bouche qui m'apporte la joie de vivre.
Tu connais par cœur.
Bah oui, je la chantais devant la glace en me regardant, en me prenant pour elle. J'avais 9 ans.
Et en te faisant 3 compliments.
Ouais, en faisant 3 compliments.
Tous les matins.
On pourra le réécouter une 3e fois. Parce que je pense qu'on a manqué un truc.
Et cette chanson, Chantal, pour illustrer votre enfance, vous avez choisi cette chanson pourquoi ? Justement, avec cette mélancolie, ça veut dire quoi ?
Parce que je découvrais cet accent, je découvrais cette femme, je découvrais... il y avait Petit Bambino, les yeux battus, la mine triste sur l'album, je l'aime. Ah oui. Il y avait cette chanson, il y avait tout ça. Et j'écoutais ça en boucle, sur mon petit manche-disque, comme ça, qu'on mettait.
On peut qualifier l'enfance d'heureuse ?
Oui. Oui,
ah,
oui.
Malgré ça.
Tu n'aimais pas Dalida ?
Non,
pas trop.
Non, c'est mes parents qui écoutaient ça. Moi, j'écoutais pas ça.
Ah, mais t'es plus jeune
que
moi.
Mais non, je suis pas plus jeune, je suis plus vieux.
Il y a un côté tristouné, je suis d'accord. Ouais.
J'ai toujours eu ça.
Bambino, peut-être pas.
Il y a un côté Dalida, surtout.
Mais c'est superbe.
Mais triste, non, mélancolique.
L'enfance, c'est Gap, c'est Roanne, c'est ça ?
C'est
beaucoup de casernes, je crois.
Beaucoup de casernes. Mon père était militaire, donc on vivait en casernes. Oui, on vivait entre femmes et enfants.
Il était quoi comme grade ?
Non, il n'avait pas de grade, mon père.
D'accord.
Il est tombé malade très vite, il a tout arrêté. Ouais. C'est peut-être de la nostalgie, ouais, tout ça. C'est ça. Ouais. Ouais. Mais Dalida, c'est ça.
Et Jean-Pierre Bacri, dans son enfance, écoutez.
Monsieur le directeur, sans même le savoir, que tous les hommes, vous êtes plus belles à passer. Tu me dis, tu me dis, tu me
dis, tu me dis,
tu me dis, tu me dis,
quand j'étais petit, j'ai toujours entendu. Elles sont les plus parfaites, elles sont potables pour ma cliquette. Quand j'avais 10 ans, oui, 11 ans.
Mais c'est les vraies paroles. Ça. Elles sont peut-être pour ma cliquette.
Mais je ne sais toujours pas ce qu'il dit. Je me doute bien.
On va le remettre.
Ça va durer longtemps.
Monsieur. Monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes la plus belle arme. Vous avez les tigri tigri di dactylo. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant à tue-tête.
Elles chantent à tue-tête.
Elles chantent en tapant à tue-tête. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant à tue-tête.
Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant à tue-tête.
Elles chantent en tapant à tue-tête.
Elles sont prêtes pour
m'écouter.
Je n'ai jamais su ce qu'il disait. Je ne l'ai pas googlé, mais j'aurais dû. Ah, c'est ça, d'accord.
Je suis pas sûr, on peut écouter une troisième fois.
Non, mais la version cliquette était sympa aussi.
C'était les chaussettes noires.
Et on est en 51, en tout cas pour vous, dans ces années-là, si on prend l'équivalent de Chantal, l'enfance.
Moi, je suis né en 51.
Vous êtes né en Algérie, à Castiglione.
Absolument.
C'est ça.
Et votre papa était au
cinéma. Ça s'appelle Bouchmaïl, maman.
Ça s'appelle comment ?
Bouchmaïl.
Vous êtes déjà retourné ou pas ?
Non.
Vous n'avez pas envie, je crois ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que je ne suis pas très nostalgique comme mec, pour ne pas dire pas du tout.
C'est pas l'inverse ?
Aucune. Comment ?
C'est pas l'inverse, ouais. Vous n'avez pas peur que ça vous.
Ah non, j'ai pas
trop
peur
d'y aller.
Non, ça me ferait chier, j'ai pas envie d'y aller du tout. Non, je m'en fous. Puis,
émotionnellement,
j'ai très peu d'images, non. Puis je suis parti à 10 ans.
Bah,
je suis rentré en France
à
10 ans.
Vous avez des souvenirs.
J'ai très peu d'images d'enfance. J'ai 4-5 images, mais je vous dis, je ne suis pas nostalgique, même par rapport au temps qui est passé il y a 30 ans, il y a 20 ans. Ça, je ne me retourne pas en disant ah, c'était le bon temps, je m'en fous. Quoi, de ça.
Mais vous avez des images du cinéma star ? Le cinéma star ?
Le cinéma où mon père travaillait comme caissier le soir pour joindre les deux bouts.
Ouais. Et quelles images vous gardez de ça ? C'est de rentrer en loose day.
Justement,
de rentrer
gratos, mais j'allais pas tant que ça au cinéma. Et je me souviens surtout d'un ou deux films que j'avais vu là-bas dans le cinéma.
Ouais. Il y en a un en particulier, je crois que vous en avez parlé dans une interview, c'est le mirage de la vie.
Oui.
Et alors je trouve ça très drôle parce que c'est un truc de gamin, ça. C'est se dire, on garde ça en stock, comme ça, en classe. Racontez-le.
Exactement, pour pas rire. Avec ma sœur, quand il n'était pas question de rire, etc., on se regardait, on se disait mirage de la vie. Comme c'était très triste et ça nous avait fait pleurer. Donc ça nous enlevait le côté fou rire. Enfin, on croyait ça, mais...
Ouais, genre on pense à son chat mort ou on pense au mirage de la vie. Voilà.
Je pense au chat mort.
Oui, bah oui.
Les héros de votre enfance. C'était des westerns, des John Wayne.
C'est ça que j'ai vu d'ailleurs au Star à cette époque-là, quand j'avais 9-10 ans, qui m'avait marqué. C'était Règlement de compte à Hockey Corral avec Burt Lancaster, Kirk Douglas.
Sublime.
Beau film sur Whiter. Super beau film.
Comment expliquez-vous que les trois quarts, hein, j'exagère pas, des comédiens et comédiennes qui viennent dans l'émission, c'est plutôt les garçons d'ailleurs, nous disent qu'ils rêveraient de jouer dans un western et que c'est un genre qui est totalement négligé
mais moi,
au cinéma.
Pas du tout. Moi, je rêverais de jouer. On me l'a jamais filé malheureusement, on m'a jamais proposé ça, mais j'adorerais jouer ou un grand truand ou un grand flic. Et personne ne me propose ça, donc je lance un appel.
C'est bizarre.
Je
ça.
Rêve. Aucun policier.
Je rêve de jouer ça, on ne m'en propose jamais, je ne comprends pas. Je voudrais faire ou un truand, enfin un beau personnage bien sûr, ou un beau flic.
Jean-Pierre Meussouf, dans ce bouet ?
Oui, je fais l'inspecteur de police, mais c'est un second rôle et puis c'était...
Ah ok, d'accord. Donc,
je voudrais vraiment faire un beau truc, travailler un beau truc comme ça, parce que je sens que j'apporterai quelque chose à un flic. Et
mais voilà, vous l'avez dit avant aujourd'hui ?
Comment ?
Vous l'avez dit avant aujourd'hui ou pas ?
Non, c'est un appel qui
lance. Je le dis parfois ici et là, mais...
Et quel genre de flic, si on va plus loin, c'est un...
Ah non, j'ai pas de genre. Je fantasme.
D'accord.
Ça se trouve à tort, mais je fantasme que j'aurais... il me semble que j'aurais une façon et d'enquêter, d'interroger les gens, etc., que je retrouve pas quand je vois un film. Et que j'aurais envie d'inaugurer, mais voilà.
Bon. Vous avez pu voir le nouveau Jacques Audiard, qui est justement un western ?
Pas vu, non.
Pas vu ? Agnès, tu l'as vu ?
Ouais.
Mais comment tu vois tout ?
Ouais, j'étais à un festival.
T'as dormi ?
J'ai vachement dormi.
Ah ouais, mais c'est...
Mais parce que t'es plus fatiguée ?
Non, mais c'est génial. C'était tôt le matin, j'étais un peu fatiguée, c'était là avant-hier. Non, et...
Je le dis pas.
C'est un film à la base, j'adore pas les westerns, mais à partir du moment où je me suis réveillée, c'est devenu extraordinaire.
Ok.
C'était la fin.
C'est générique. Non, vraiment, c'est hyper bien.
Il y a Joaquin Phoenix.
Incroyable. Et John Cirelli, surtout.
Avec des acteurs américains.
Il y a John Cirelli qui est incroyable.
Vraiment. Il n'y a pas de fille dans le film.
Chantal Lobby a écouté dans les années 70 Mink Deville. One dream of my life.
Le chat bleu. C'est mon disque de chevet, ça. The wind whispered soft to me.
Eh bien, Mink Deville, il avait un super succès. Formidable. One side of the
dawn. Formidable, Mink Deville. J'adore. Et là, cette chanson,
c'est mélancolique encore.
Vous renvoie quelles images?
Bah, ça me renvoie une période où j'étais un peu paumée, comme d'habitude. Je ne savais pas trop où j'allais, ce que j'avais envie, etc. Et c'était mon disque de chevet. C'est-à-dire
mais là,
que...
quoi, on est dans les années 80?
Oui.
Mais pardon, Chantal, comment ça, une période où vous étiez un peu paumé, vous ne saviez pas où vous allez? Moi, je vous ai connu à ce moment-là.
Ben voilà, et... je ne montrais pas forcément, dans ma tête.
Tu crois que ça donne la patate de te rencontrer?
Non, je ne dis pas ça.
On travaillait ensemble.
Je ne dis pas ça.
On mais, avait mais c'était même... justement pire à ce moment que...
Non, c'était une période, où vous travailliez tous les jours à la radio, toutes les semaines à la télé, avec Bruno Carrette, où vous avez amené cette...
Disons que je me cherchais dans ma vie affective un petit peu, c'était pas terrible, c'était pas tout ça, voilà, comme il faut. Et je me mettais ce disque sans arrêt.
D'accord.
Et 79, ce sont vos débuts au cinéma aussi. C'est la même année que Jean-Pierre. Vous débutez, Chantal, dans Ils sont grands, c'est petit.
Non, ça, j'avais été prise pour une... J'étais présentatrice à la télé. Ils m'ont vu, m'ont fait venir pour une petite
et
scène.
Et alors, c'est votre
mais
première.
Mais je suis pas film. Dedans.
Mais c'est pas grave, vous avez tourné quand même.
J'ai tourné quand même.
Vous étiez au courant qu'elle avait
Catherine
film,
Deneuve.
C'était coupé au montage?
Mais oui, c'était un tout petit bout de machin et qu'on n'a même pas vu. J'avais 30
un petit
secondes.
Bout de...
C'est drôle ça.
Un petit bout de machin.
C'est drôle ça quand on a un petit bout de truc et puis paf, c'est sucré coupé. En fait. On n'est pas dans le film. Ouais.
Mais je l'ai vu tout de suite parce qu'il y a eu un.
À ce moment-là, tu rentres chez toi et tu mets Mink Deville.
Non, ils ont eu un souci technique, je ne sais plus quoi. Et c'est repassé. Donc. Mais c'était quoi, 30 secondes d'un truc de speakerine?
Mais moi, je l'ai dans votre filmo, je l'ai mis dans la filmo, c'est votre premier film.
Je
moi.
Sais, tout le monde me parle de ce film alors que je suis super dedans.
Vous êtes la meilleure pour beaucoup de personnes.
Vous êtes peut-être crédité.
Il y a IMDB, IMDB a dû le laisser sur son site internet. Voilà, ça vous suivra.
Je ne sais pas, mais c'est vrai. Voilà.
C'est comme Florence Pernel qui mesure 1m20 d'après Wikipédia.
Ah bon
et donc, partout, il y a marqué, elle mesure 1m20. Et chaque fois, elle me dit, tu ne sais pas comment changer. Non, mais c'est impossible.
C'est bizarre, Wikipédia, souvent.
C'est étonnant. Jean-Pierre, vous êtes plutôt branché Stevie Wonder. He's a man
with a plan. Got a counterfeit
dollar in his hand. Tous ensemble. He's Mr.
Know-it-all. Alors c'est pas la plus connue de Stevie Wonder, vous êtes allé chercher le Stevie Wonder.
C'est l'album le plus connu, enfin, Songs in a Key
of Life.
Il y a Sordio, il y a tous les tubes. Il y a que des bombes dans cet album. Et Stevie Wonder, pour moi, c'est la voix des voix des voix.
Vous avez,
personne chante mieux que ce mec.
Vous l'avez déjà rencontré? Vous êtes déjà allé à un concert?
Non.
Vous n'aimez pas aller à des
concerts? Je suis allé à un concert à Bercy il y a très longtemps. Ça m'avait éclaté d'ailleurs.
D'accord.
Là, 79, pas aussi au cinéma. Là, vous allez me dire si c'est vraiment vos premiers pas au cinéma ou si vous avez
coupé
été coupé
au montage.
Dans le Toubib.
Ah non, là j'y suis.
Voilà.
J'ai un masque de chirurgie, mais bon.
Mais c'est moi.
Et La Femme Intégrale, c'est
oui.
aussi. En 79. Quel souvenir on garde de ces premiers tournages? Première fois qu'on,
bon, alors là,
qu'on cachetonne aussi, quelque part.
Non, moi c'est même pas une question de cachetonner. Non,
bah, on
cachetonne
au
pas dans ces cas-là. Quand on fait ses débuts. C'est pas une question de cacher, c'est une question de je fais mes débuts. On n'y pense pas à l'argent d'ailleurs. Bon. Mais non, mais c'est vrai. Au début, on ne pense pas à
penser,
ça.
Ouais.
On se dit quelqu'un m'a pris dans un film, je vais apparaître, on va me voir. Peut-être qu'après, je ferai d'autres trucs. Il y a plein, et donc, c'est beaucoup de trac, beaucoup de tension et finalement pas énormément de plaisir.
Avec une autorité que vous avez tous les deux, vous vous êtes souvent posé la question du lendemain, de savoir s'il allait avoir du boulot, s'il allait avoir de quoi. Subvenir à vos besoins et à vos métiers.
Vite, mais...
Moi, je me suis pas trop posé la question. Je me disais, je faisais confiance à la vie.
C'est un luxe,
et je me disais,
ça,
ouais. Si jamais je peux pas, j'écrirai un truc, j'écrirai un. Si je suis pas demandé. Voilà, j'ai toujours eu des projets dans ma tête et j'ai toujours travaillé soit à l'écriture, soit. Je suis jamais resté sans rien faire.
Et vous, Jean-Pierre?
Moi, j'ai réglé le problème parce qu'il y a 25-30 ans, on a réussi avec Agnès à faire un succès avec un art de famille, un cuisine. Et au lieu d'acheter des maisons, des voitures et des bateaux, j'ai gardé cet argent en me disant,
c'est jamais,
la vie, ça va, ça vient. J'ai pas eu tort, puisque...
Comme une assurance, quoi, comme un matelas pour...
comme un matelas, plutôt que de payer des crédits, machin, d'accord, et puis d'être obligé de tourner une pub et des conneries et des films merdiques pour continuer à vivre. Je me suis dit, faire en sorte de vivre confortablement longtemps, d'avoir l'assurance, et comme ça, après, tu pourras choisir ta vie, tes films, et fuck ce qui te plaît pas.
Parce que c'est ça, le luxe, c'est de dire
le luxe absolu.
Ça veut dire quoi, que finalement...
De pouvoir dire non, je travaille pas deux ans, d'ailleurs c'est ce qui va m'arriver si ça continue. c'est de dire je travaille pas deux ans, je m'en fous, mais tant que j'ai pas un truc qui m'emballe, je vois pas pourquoi je ferais mon 57e film, ou je sais pas combien j'en suis, juste pour le plaisir de travailler ou pour l'argent. Parce que souvent les gens travaillent ou pour payer les impôts qui sont pas payés comme des crétins
l'année d'avant, en mettant de côté.
C'est des débiles mentaux, donc ils savent pas qu'on paye des impôts. Fait qu'après, ils sont hyper étonnés d'avoir 400 000 à payer un premier tiers. Donc, ils se disent, tiens, c'est marrant, on m'a imposé. Donc, voilà, tous ces trucs-là.
Donc, ça veut dire que la vraie liberté, c'est de rien posséder. Quand vous dites, pas de maison, j'ai pas acheté ce genre de choses.
Je peux vous montrer mon trousseau de clés.
Ouais, montrez-moi.
Il y a une seule clé.
C'est la clé de la maison.
Clé de la maison, clé de la boîte aux lettres. Pas de voiture, pas de maison, pas de résidence.
Rien.
Pas d'attache. Rien.
Pas de contrainte dans la vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous...
Je suis comme lui.
C'est quoi votre contrainte dans la semaine? Est-ce qu'il y a au moins une seule contrainte dans votre semaine?
Une contrainte dans la semaine, c'est d'être obligé de me barrer entre 14h et 17h le mercredi parce qu'il y a les femmes de ménage.
J'adore. Non mais c'est un vrai choix.
J'ai jamais entendu ça.
Est-ce qu'on voit d'un côté hyper positif là, qu'est-ce que ça peut avoir de négatif d'avoir aucune contrainte finalement?
Il n'y a rien de négatif dans le fait d'avoir aucune contrainte, puisque j'ai fait ma vie autour de ça. Moi, je travaillais dans une banque, comme vous le savez, quand j'étais à Cannes avant de revenir à Paris. Ouais. Je me levais tous les matins à 7h, je me rasais de près, parce qu'il faut te raser de près. Je mettais un costard et une cravate, et je me suis dit, tout ça, là, se lever tôt, se raser de près, mettre une costard et une cravate, c'est fini. Et à partir de là, il se trouve que j'ai eu la chance de trouver ce métier.
Oh, vous pouvez lâcher la contrainte, épouser la femme de ménage, ça vous n'est pas venu à l'esprit?
Peut-être que je vais y penser, mais enfin,
comme ça, vous êtes obligé de sortir.
C'est sympa, non.
C'est vrai, c'est
joli. Non, je plaisante, en plus, je la connais pas.
Non, vous êtes jamais là. Vous êtes jamais là, en fait. Vous êtes jamais là. Vous l'avez jamais vu. Vous l'avez jamais vu.
C'est mal mentir.
Je la connais pas. Elle est formidable, celle-là. Le film s'appelle Photo de famille. Il sort ce mercredi, donc demain. Et justement, nous allons parler de la famille avec vous, Roselyne Lévy-Bass. Vous êtes psychologue, psychanalyste, thérapeute familial, responsable d'enseignement à l'Université de Paris Dauphine. Vous avez écrit Les repères familiaux, l'encyclopédie de l'enfant de la famille, aux éditions Hachette en 81, du roman au mythe familial également en 90, et plus récemment La guerre des repas n'aura pas lieu chez Marabout.
Bonjour Roselyne.
Tout à l'heure Roselyne, on disait que ce qui se passe dans le film se passe dans toutes les familles, c'est-à-dire qu'au bout de quelques minutes, quelques heures, ça implose. Qui dit famille dit forcément clash, engueulade, fâcherie.
Oui, ça dépend des moments de vie. Là, dans le film, c'est un moment, effectivement, on parlait de l'enterrement.
Ouais.
Et ce sont des moments de vie, effectivement, qui sont plus propices à un risque d'implosion, car il y a des tensions, des conflits qui naissent à l'intérieur de la famille et qui peuvent mettre les uns et les uns en souffrance.
Il y a les deux effets, parce que tout à l'heure, je disais qu'un enterrement, un décès, malheureusement, pour en avoir beaucoup vécu dans ma vie, ça peut aussi bien rassembler, réunir dans une parfaite communion, hors de toute religion. Je parle simplement de se retrouver et finalement de se dire ne passons pas à côté les uns des autres parce qu'on n'a pas assez dit je t'aime à la personne qui nous a quittés, et donc on resserre les liens, ou l'inverse, ça peut créer des tensions, voire des conflits au sein d'une famille.
Oui, d'ailleurs, souvent dans les moments d'enterrement...
Non. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Pierre?
Non, je dis dire je t'aime, ça n'a pas d'importance de dire je t'aime. Ah. C'est aimer qui est important, c'est montrer que tu aimes, dire je t'aime, tout le monde est capable de le dire.
Non, mais les deux, c'est
encore
mieux.
Il y a des familles qui ne le disent pas.
Il y a des familles qui ne le disent pas, enfin, c'est pas indispensable de dire je t'aime, c'est une espèce de truc de vieux film...
Oui, mais
américain qui m'intéresse pas. Moi,
les deux, c'est bien aussi, Jean-Pierre.
C'est pas une question de dire je t'aime, c'est une question de respecter l'autre. Ce qui se fait rarement dans les familles, parce que dans les familles, le cancer de la famille, c'est la familiarité, comme son nom l'indique. C'est-à-dire, c'est le fait de pouvoir se permettre de faire des choses et de dire des choses à des gens sous prétexte qu'on les connaît intimement, de dire des choses abjectes à des gens qu'on dirait pas à quelqu'un à l'extérieur. Et en général, la familiarité ronge. Toute cellule. Voilà,
vous êtes d'accord avec ça? Avec ça, Rosine?
Ce que je voulais dire, moi, c'est que justement, à un moment de l'enterrement, et c'est ça qui peut resserrer les liens, ce sont des moments où on réalise à quel point parfois la personne qui est décédée, elle comptait pour nous. Et d'ailleurs, dans le film, on voit bien à un moment donné que le père dit à la mère, eh ben, finalement, on ne s'est jamais parlé. Ça serait, voilà, toi et moi, on ne s'est jamais parlé. Donc, à quel point l'autre compte pour nous ou à quel point il ne compte pas, puisque le grand-père, finalement, il était peu apprécié par la famille. Alors, ce sont des situations effectivement bouleversantes qui font ressurgir des souvenirs d'enfance avec les cortèges de souvenirs heureux et en même temps, c'est vrai, des rancœurs. Alors, dans ces situations douloureuses, justement, où on voudrait compter les uns sur les autres, ce sont souvent des moments où les vieux comptes relationnels remontent à la surface, voilà. D'autant plus qu'ils n'ont pas été exprimés ou peu, car, pour le dire comme ça, parler des comptes relationnels en famille, ça s'apparente à un tabou. Parce que en effet, on a tendance à penser que quand on aime, on compte pas. D'accord ? Donc surtout en famille. Et pourtant, qui ne s'est pas surpris à se sentir injustement traité avec peu ou pas de réciprocité en retour ? Qui n'a pas pensé à un moment donné qu'il donnait beaucoup, qu'il faisait beaucoup pour les autres, qu'il se dévouait, qu'il donnait toujours plus ?
Et que c'était pas forcément le cas de l'autre côté.
Mais que c'était pas forcément le cas. Ou parfois que... qui n'a pas eu le sentiment qu'il voudrait recevoir plus, mais qui n'osait pas demander. Oui. Aussi.
Alors, l'un des problèmes soulevés dans le film, et on en a parlé tout à l'heure avec Albert, c'est ce comportement face à la mort, face à nos aînés aussi, à ceux qui se retrouvent seuls. Faut-il les accompagner, ceux qui les placent dans des maisons, qui font leurs meilleurs efforts. Moi, je ne veux pas faire le procès des EHPAD, je suis sûr qu'il y a des gens très bien dans ces maisons.
Espérance de vie de 18 mois en moyenne pour une personne en bonne santé qui rentre dans un EHPAD et qui en sort.
On ne peut pas culpabiliser non plus les gens.
Il ne s'agit pas de culpabiliser les gens, mais c'est une réalité.
Non, mais c'est ça qui est dur.
Non, mais récemment, il y a eu des enquêtes. Il y a un scandale de l'accueil de, je ne dis pas de toutes, mais d'un grand nombre de personnes âgées en France.
Mais je t'ai dit que je te gardais, Albert. Arrête.
C'est pour ça que je suis là.
Mais pour en revenir au film, ce que je voudrais dire, ce qui m'a vraiment paru remarquable dans le film, c'est qu'effectivement, ce qui est important de comprendre dans les familles, c'est que toutes les relations familiales sont traversées parce que chacun donne à l'autre, d'une génération à l'autre, des parents aux enfants, mais des enfants aux parents, ou des petits-enfants aussi, aux grands-parents. Et ce que j'ai trouvé vraiment formidable dans le film, c'est qu'on voit bien que la réciprocité là est au cœur des liens familiaux, parce que les enfants, ils ont beaucoup reçu de leur grand-mère, elle leur a beaucoup donné, elle leur a donné la possibilité de se rassembler, de se réunir, elle leur a donné des souvenirs heureux, et à leur tour, eux aussi, ils veulent s'occuper d'elle, ils veulent faire aussi autant pour elle que ce qu'elle a fait pour eux, en leur donnant la possibilité de réaliser son rêve. Et ils sont prêts à tout pour lui faire plaisir. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le contre-don des enfants. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est important, c'est que de toute façon, la vie familiale, elle est jalonnée de tous ces sentiments d'injustice, de difficultés à recevoir, de gêne à demander, d'épuisement à donner, de conflits de loyauté à l'égard des parents, pour qui on a donné plus ou moins, et on a toujours peur d'être déloyal à l'un ou à l'autre.
Différence de traitement entre les enfants.
Ouais. Mais ce sont des sentiments qui font partie des banalités de la vie, ça je tiens à le dire. Et qu'en fait...
C'est donc normal, vous voulez dire, que
oui, mais lorsqu'on ne
un
prend
frère
pas
ait le sentiment d'être moins bien traité que
ou plus aimé.
Mais lorsqu'on ne prend pas en compte... et qu'on n'exprime pas, voire qu'on s'interdit de faire ces comptes à un moment donné, je dis entre guillemets relationnels, c'est vrai qu'il y a des risques d'implosion à des moments privilégiés particuliers comme l'enterrement. Donc moi, ce que je dis, c'est que effectivement, c'est important de penser qu'on ne peut pas donner sans compter, c'est pas possible, et que ça revient à ne rien attendre de l'autre en retour, et ça lui prive de donner à son tour.
Ceux qui carrément coupent les ponts avec leur famille en disant « moi j'ai pas envie de gérer ça, ça me saoule », qui ne veulent leur rendre de compte à personne. Famille, je vous hais.
Oui, on peut penser que c'est effectivement lié à cette histoire de compte relationnel qui n'a pas été réglée. Où souvent, quand il y a des ruptures comme ça familiales, ce sont souvent des enfants qui ont beaucoup donné, qui ont beaucoup fait pour les enfants, qui ont des enfants qui ont beaucoup donné pour leurs parents, mais ça n'a pas été reconnu par les parents. Ils n'en ont jamais été remerciés. Et ça, c'est quelque chose d'insupportable et qui provoque effectivement des ruptures.
Ce qu'on retiendra en tout cas, c'est que vous avez visiblement aimé le film et reconnu des vérités dans les relations humaines, puisque c'est un film extrêmement humain.
Oui.
Encore une fois, avec tout ce qui est fait pour... Et comme tout à l'heure, je disais qu'on pouvait imploser un enterrement, la naissance naissance aussi.
La naissance,
tous les événements, en tout cas, c'est, dans une famille, peuvent être vécus d'une manière à vif, que ce soit positivement ou négativement, et dans des situations extrêmement drôles ou tendres, comme c'est le cas dans le film. Merci Rosine d'être venue. Merci Rosine Lévy-Bass, qui était notre invitée. Tanguy Pastureau sera là tout à l'heure. Bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui.
Reviendra tout à l'heure pour nous parler du président Macron qui a fait sa rentrée des classes.
Oui, je pense qu'il a sniffé la colle Cléopâtre de l'ensemble des élèves du collège Jules Renard de Laval où il était, parce que quand on lui a demandé lors d'un portrait chinois s'il était un plat cuisiné ce qu'il serait, il a répondu une blanquette de veau. Donc il souffre d'une image très dépréciée de lui-même, Nagui.
Ça sera après les infos de midi avec Chantal Lobby et Jean-Pierre Bacric. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadhafi, Agnès Hurstel, Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Daniel Morin.
Eh ouais, je suis là.
Albert Algou.
Bonjour.
Et nos invités Chantal Lobby et Jean-Pierre Bacri.
Bonjour.
Chantal.
Chantal, puisque on est à la radio, puisque nous nous sommes connus à la radio, est-ce que des envies de faire de la radio, d'être animatrice, je ne parle pas de comédienne, je parle de faire de la radio, le plaisir de parler, de raconter des histoires.
J'aimais ça, la radio, j'adorais. Mais je ne sais pas maintenant, je ne sais pas si je saurais encore le faire.
Moi, je suis sûr qu'il y a quelque chose que vous feriez bien, parce que vous êtes extrêmement bienveillante dans la vie et que ça serait agréable d'entendre une interview, une espèce de face-à-face. Vous feriez raconter des moments de la vie ou leur vie ou des moments particuliers à vos invités. Je suis sûre que vous réussiriez à le faire.
J'adorais ça, rappelez-vous, j'en faisais plein. Hein.
Mais oui.
Ah ouais, j'adorais.
Donc si une radio là vous le propose...
Why not ?
Une heure par semaine.
Pourquoi pas ?
C'était joli les éclats de rire de Chantal dans Les Nuls. C'est vrai qu'on a ce souvenir de à chaque fois de comment elle était plantée, cueillie par.
Ah, j'étais bon public.
C'était agréable.
Il me cueillait bien les autres.
C'est normal.
Oui, sauf que dans la vie tous les jours, vous êtes aussi.
À part Chabat qui était pas drôle.
À l'initiative.
Il n'a jamais été très drôle.
Moi, je comprends pas comment il a eu.
Moi, je me demande même pourquoi j'ai pu tourner avec lui. C'est franchement comme plaît.
Là, le Burger Quiz, c'est vraiment pas sympa du tout.
Non, c'est pas
bien. C'est pas bien, Burger Quiz.
On se fait chier comme des rats.
Burger Quiz.
Il y a souvent des rats dans les fast-foods.
J'étais bien dans le Burger Quiz.
Moi, j'ai trouvé qu'il était bien dans le Burger Quiz d'Alain, là, parce qu'on aurait dit un enfant. Un enfant qui retrouvait son jeu.
J'étais avec mes copains.
Voilà, il était avec ses copains, il était là tout content, il riait tout seul.
Mais ça rejoint la phrase.
C'est hyper intéressant.
La phrase de Groucho que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a toujours cet enfant qui est en vous et qui est content de ressortir la
tête. Il y a un enfant qui est moyennement content,
franchement. Qui se demande ce qui
s'est passé, mais avec une espèce d'effroi quand même. C'est pas le côté oh, mais qu'est-ce qui s'est passé.
Non, c'est vrai.
Photo de famille, et donc ce film dont nous parlons. Photo de famille sort demain au cinéma. Cette photo d'ailleurs est le titre, et sans dévoiler, c'est la signature, c'est la résolution de tous les mots et la signature du film. L'idée de mettre des gens, au début peut-être de force, ensemble dans un cadre rigide qui est celui de la famille et après de se retrouver avec la volonté d'être ensemble dans ce cadre, dans cette photo. Le titre est encore plus fort parce qu'il y a tout dans ce titre.
Ça s'appelait Big Bang au début.
C'est vrai. L'explosion.
Quand on a lu le scénar, c'était Big Bang. Et puis après, ils ont changé, ils ont mis photo de famille, mais Big Bang, ça parlait aussi. Hein. Ça voulait bien dire.
Non, pourquoi il marche à quatre
pattes ?
Parce que
membres du personnel qui se courbent.
Mais non, mais pas du tout. Alors, c'est pour Daniel Morin, je te signale, c'était pas pour moi. Parce que comme maintenant tout est filmé, ils veulent pas passer dans le champ des caméras.
C'est filmé.
Or, je sais pas.
Les caméras sont là.
Fait un petit signe, Jean-Pierre, ça s'est vu.
Je sais pas si vous remarquez, mais à la télé, comme maintenant à la radio,
partout,
toutes les personnes qui passent en se baissant pour pas être vu, on ne remarque que.
Bien sûr. Oui, c'est vrai.
Alors, celui qui marche droit et qui fait son truc, on ne remarque pas.
Comme quoi,
donc, petite indication à tous ceux.
Celles qui enlèvent leur soutien-gorge, on les remarque aussi.
Ah bon ?
C'est vrai.
Là, vous parlez de quoi ? Non, Chantal, non, c'était... Jean-Pierre, j'ai pas compris la vanne.
Sur Inter,
il y a une jeune femme extrêmement accorte qui s'est enlevée.
Mais c'est la vidéo que tu me montres depuis hier.
Je sais pas de quoi vous parlez.
J'étais sur Inter.
C'est le gif.
D'accord, ok.
Très bien. Mais regarde, c'est trop cool.
Oui, bien sûr. Sûrement, j'ai dû faire ça. Il est l'heure, à 12h10, de retrouver Tanguy Pastureau. Tanguy, donc, le président Emmanuel Macron a fait...
T'es pulpeuse.
Toi, tu sais que t'es filmé, par contre. Ouais. Le président Emmanuel Macron a fait la rentrée des classes hier.
Oui, il est déprimé, il est au fond du trou, il a l'état d'esprit d'un cow-boy dont le cheval viendrait de crever et qui se retrouverait assis comme un couillon sur une vieille selle au milieu d'un pré. Alors, il essaye de donner le change, bien sûr, joue les beaux gosses, en déplacement, il fait des clins d'œil aux mamies qui viennent le voir et qui en claquent leur pile de désirs inassouvis. Elles convulsent par terre en murmurant « J'ai survécu au moment où Franck Michael, sur scène, a fait des macramés avec ses poils de torse. Mais là, c'est trop sublime, j'en peux plus, j'ai l'impression d'avoir de nouveau des ovules. » Macron, il cache son mal-être. Mais moi qui suis sensible, j'écoute les Cure en pleurant et n'ai pas encore parlé à Agnès Hurstel car j'ai peur de m'effondrer assailli par l'émotion au moment où elle me dira qu'elle adore mon travail. Et ben moi, je sais que Macron est au bout du rouleau. Macron est au bout du rouleau. Il va finir dans un film des frères Dardenne à jouer le rôle d'un migrant cul-de-jatte qui a refilé la syphilis à une travailleuse sociale qu'il a violée un soir de pluie dans la banlieue de Calais. On me la fait pas à moi. Tous les chefs d'État sont des êtres fragiles. Donald Trump, qui fait le kéké à remplir des trous dans l'herbe avec des balles à la noix, n'est qu'un enfant apeuré qu'on a obligé en CM1, c'est le CM1 américain, à bouffer des pépitos et qui en a tiré une aversion pour les Mexicains. Abdelaziz Bouteflika, président algérien, n'est lui aussi qu'un gosse effrayé qui en 1902 a perdu son doudou et a choisi pour se consoler de devenir lui-même un doudou. Bref, hier Macron était à Laval en Mayenne, ce qui d'ordinaire constitue un gage quand on a perdu un crouton dans le fromage lors d'une fondue avec des potes. Mais pas lui, il va à Laval de son plein gré, ce qui montre qu'il est en dépression. Hein, lâché par Hulot, Flessel, boudé par le public, sans son Benalla pour jouer à Bodyguard. Donc il vient assister à la rentrée d'enfants de 6e, hein, qu'accompagne des parents qui, après avoir quitté l'école, hurlent la chanson « Libéré, délivré », puis vont brûler un cierge en l'honneur de Jules Ferry. Macron s'assied au premier rang, hein, parce que c'est un faillot, il a 40 piges et est là à courir après une pauvre image de tapir qu'on va lui donner s'il a un A, à côté d'une fillette qui porte des nattes, hein, comme chez la naguère, mais en moins con. Et là, la com' de l'Élysée, qui sait que Macron dégage auprès des gens la même sympathie qu'une bite d'amarrage sur laquelle un malade aurait collé des clous. Il a la même cote dans les sondages que Ceausescu en 89. A une idée, faire converser Macron avec les enfants. Les enfants, ça sent le pipi, comme les urétrotoires de la mère Hidalgo, mais au moins, c'est mignon.
Alors, ces enfants ont donc proposé au président un portrait chinois.
Oui, exemple, on vous demande si vous étiez un homme de télé, ce serait qui? Vous répondez Nagui. En tout cas, quand vous êtes présent, Nagui, pour vous flatter. Sinon, on dit Philippe Risoli, bien sûr, ou un autre mec plus crédible. Donc là, les gosses disent à Macron, si vous étiez un métier, Macron répond, je serais professeur, c'est un beau métier. Il va pas dire le contraire, il s'est marié avec le sien. Hein, il en est tombé amoureux à l'âge de 17 ans, comme moi avec Samantha Fox. La seule différence étant qu'il ne côtoyait pas Brigitte sur un double poster. Ensuite, on lui demande si vous étiez un animal, le président répond un chien. Ce qui serait compliqué parce qu'il a lui-même un chien. Donc en le voyant arriver, le sien est en train de s'accoupler. C'est très gênant. On a beau dire mais arrête gros, hier encore je te lançais la balle, l'autre bave, se frotte, on a l'impression d'être dans le métro quand on est une jeune femme. Puis Macron s'arrête et demande à la classe, et vous, votre animal préféré? Il a plus été dans la concertation avec eux en 3 minutes qu'en un an de relation avec Philippe Martinez de la CGT. Et tous répondent le chat. C'est-à-dire et que oui. Même sur la question de l'animal préféré, les gens ne le suivent plus. Hein, Macron, si au resto il demande une escalope, les autres deviennent véganes. Puis on lui pose la question, si vous étiez un plat cuisiné? Et c'est là qu'on voit que Macron est brisé psychologiquement. Parce qu'il y a 2 mois, il aurait répondu, mon pote, je serais un gros saucisson d'âne au gingembre. Et là, il répond, je serais une blanquette de veau. Alors, au moment de flottement dans la salle, les élèves se tailladent l'oreille avec leurs ciseaux, persuadés que l'organe ne fonctionne plus. Hein, Macron, le trader dopé conçu par les laboratoires Pierre Gattaz, ne peut pas avoir dit qu'il serait une blanquette. C'est nul. Une blanquette, ça pue, c'est mou, c'est moche et c'est cruel. Les veaux aussi sont des enfants. Oui. Or, on ne mange pas les enfants des autres. Sinon, dans le TGV, quand il y a des gosses qui hurlent, on dirait aux parents, excusez-moi les lourds, mais vous en avez deux, je pense qu'ils se disputeront moins s'il y en a un tout seul. M'en voulez pas, je vais le bouffer avec des chips. Hein, personne n'a jamais tenté un plan drague en disant à l'autre, tu sais, si j'étais un plat, je serais une blanquette de veau. Parce qu'à moins de se taper Cyril Lignac, c'est le bide assuré. Macron, mais c'est fini. Le matin, il se lève, se regarde dans la glace et voit une blanquette. Hein, même moi qui n'ai pas confiance en moi, je vois une paella un peu épicée. Et là, moment de gêne ultime, alors que Macron annonce qu'il serait une blanquette, Jean-Michel Blanquer. ministre de l'Éducation, qui est là, ajoute, c'est véridique, je n'y suis pour rien. Blague reconnue comme moyen de torture par la Convention de Genève. À Guantanamo, Blanquer vient dire aux prisonniers qu'il est une blanquette et les types à vous-même le meurtre d'Henri IV. Bref, monsieur le président, ressaisissez-vous, on n'a pas élu une blanquette, on veut la retrouver, notre petite saucisse de Toulouse bien ferme. Courage.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Bravo Tanguy.
La photo de famille, ou photo de famille, c'est le titre du film qui sortira demain avec Vanessa Paradis, Camille Cotin, Pierre Deladonchamp, Laurent Capelluto qui est juste
fort. Oh, il est super. Super acteur.
Qu'est-ce qu'il est drôle.
Mais souvent, chaque fois dans tous les films où je l'ai vu, où on l'a vu, ouais, il est d'une justesse.
Bon.
Il est trop drôle.
Marc Ruchman, Claudette Walker, Jean Avia, Émilie Cazenave, Guylaine Nondez, Sandra... Kaké, Rio Vega, Sadio Niakate, Bérangère McNeese et donc vous, Chantal Lobby et Jean-Pierre Bacri. Ce qui est fort dans ce film, c'est que oui, c'est l'histoire d'une famille, mais il y a, d'une manière totalement indépendante, toutes ces histoires qui vivent et on a les histoires de chacun dans son coin. Celle de, prenons Vanessa Paradis, femme, mère célibataire, qui a du mal à éduquer son fils, fils ado, qui veut quitter sa maman pour retrouver son papa. Et on suit en film rouge l'histoire de cette mini-famille, entre guillemets, de la même manière qu'on suit celle de Camille Cotin avec justement Laurent Capelluto, qui essaye d'avoir un enfant, qui ne réussisse pas, et lui qui essaye d'arranger les choses, de faire quand même des câlins, et elle qui est trop un peu trop rock
dragon.
Par moment, et qui ouais, dragon, c'est ça.
Et ça pèse.
Je parlais de Pierre Deladonchamp, qui lui aussi a sa vie dans son coin, d'informaticien. Bref, ce sont plein d'histoires qui auraient pu faire à chacun d'ailleurs, à chacune, un film indépendant, mais qui se retrouvent entremêlés, entrechoqués, et qui s'interagissent les unes avec les autres. C'est ça qui est fort aussi dans ce
super
film.
Bien dit, bravo Nagui.
Ça fait plaisir, hein, parce que...
Non, mais
c'est vrai, parce que normalement, c'est nous. Si c'est pas vous, c'est nous, et si c'est nous, c'est pas bien. Non, c'est vrai, j'adore alors, ça.
Parlez-moi de votre vie, vous, dans le film, Jean-Pierre.
Non, non.
Si,
de ma vie à moi.
Non, dans le film.
Oui,
dans
j'ai bien.
Dans le film, c'est-à-dire vous avez quitté votre épouse, jouée par Chantal Lobby, la mère de vos enfants, et vous êtes avec votre secrétaire.
Absolument. Et puis je dois dire quoi maintenant?
Mais non, mais dans quel état d'esprit est votre personnage? Il est...
Alors ça, je ne me souviens plus, malheureusement, parce que je l'ai tourné il y a très longtemps.
Il y a 8 ans.
Non, il est dans... J'ai beaucoup de mal
à parler de votre
parler
personnage.
Des personnages,
mais c'est pas un personnage très expressif, si ça peut vous aider. C'est-à-dire que
voilà, c'est pas un personnage.
Ouais, c'est qu'on va le faire comme ça. Ouais, je fais.
Dites-moi
puis...
ce que je dois dire.
Voilà, et comme ça, vous, voilà, on
mais
le fait.
Non,
comme
mais quand même, il refait sa vie avec une fille qui a 20 ou 30 ans de moins que lui.
Ah
et
ouais,
ça choque tout le reste de la famille.
Absolument.
Mais il est amoureux.
Non, Jean-Pierre, vous pouvez pas faire ça.
Non, mais je te jure,
Jean-Pierre, c'est pas cool.
Non, mais parce que je ne sais pas.
Si vous savez, Jean-Pierre. Quand même.
Vous n'avez pas vu le film ?
Non, mais parce qu'on en a parlé tout à l'heure, du fait qu'il est un petit peu en dehors de la famille, qu'il est extrêmement égoïste en fait, et qu'il
mais c'est
a
pas
envie
vrai.
De vivre sa vie.
Mais c'est pas vrai, parce que sans dévoiler le film, il y a une scène où on se rend bien compte qu'en réalité, sa famille, ses enfants, ils les aiment, qu'il parle d'eux, la scène avec son fils à la cantine est très forte,
elle est super forte.
Vous parlez par onomatopée, c'est un homme qui veut être tranquille.
Voilà, c'est ça.
Oui, mais qui se ment un tout petit peu quand il fait « j'ai une protection, j'ai une armure, je m'en fous de vos histoires, ça m'intéresse pas ».
C'est-à-dire que les circonstances l'obligent à refréquenter cette famille, et en la refréquentant, il s'aperçoit qu'il y a des énormes vides en lui, qui seraient peut-être comblés par un peu d'affection et un peu de lien. Et donc il découvre tout ça, et c'est tout ce que je peux dire.
Et la psy que vous êtes, Chantal Lobby, se pose aussi des questions sur la communication qu'elle a pu entretenir avec ses propres enfants?
Non, elle écoute les autres parler, elle continue son travail. Je pense, oui, bien sûr qu'elle doit s'en poser des questions. Elle s'en pose obligatoirement, mais je ne sais pas, c'est pas très présent dans le film en tout cas.
Si, si, il y a
on la sent un peu perdue vers la fin.
C'est ça.
Et même heureuse de voir le rapprochement de ses filles envers elle et tout. Mais voilà, c'est...
Oui, parce que ça pose la question de sa propre fin aussi, tout d'un coup. C'est de se dire, un jour, moi aussi, je vais vieillir.
La phrase est dite. J'aimerais aussi qu'on s'occupe de notre grand-mère comme j'aurais aimé que ma maman s'occupe de moi. Je crois que c'est
le
personnage de Vanessa Paradis qui le dit dans le film.
Ouais. Oui, oui.
Vous voulez rajouter quelque chose, Jean-Pierre?
En fait, je vous l'ai déjà dit, ça, comme on se voit finalement assez souvent.
Tant mieux.
Non, c'est vrai,
j'adore.
Et je vous dis, je crois que lorsque moi, en tant qu'auditeur, j'écoute une émission de culture, sur la culture, ou sur un film, cinéma, un roman, etc. Je m'ennuie toujours terriblement au moment où les gens racontent l'histoire. Parce que je m'en fous, ça me dit rien.
Alors comment donner envie aux personnes de...
C'est comme si je vous disais...
c'est comme une bande-annonce.
Cette fille, elle est formidable parce qu'elle est jolie, mais elle est jolie sans être... c'est pas vraiment mannequin. Le mieux, c'est une photo. Ou le mieux, c'est un petit film d'elle. C'est comme ça que vous le découvrez.
Non, mais ça peut donner envie d'aller voir la photo.
Je sais bien, non, mais je dis pas que ça n'aide pas. Mais je dis qu'en tant qu'auditeur, je m'ennuie, toujours pour pas employer un mot plus fort.
Et en tant que spectateur, vous allez voir un film au cinéma.
Je préfère aller voir le film et découvrir l'histoire.
Mais alors pourquoi vous allez voir un film au cinéma? Pour les comédiens qui y jouent? Pour ce qu'on vous en a dit, parce que le bouche à oreille fait beaucoup aussi.
Souvent les comédiens et le metteur en scène. Si j'ai beaucoup aimé un film d'un metteur, je me dis, ah chouette, il y a un film de Catherine Bigelow qui va sortir. Par exemple, je dis ça parce que je viens de voir Zero Dark Thirty qui est formidable.
Ouais. Et quand c'est un premier film et que c'est un casting...
Inconnu.
Ouais, parce qu'à un moment, il faut bien commencer.
Ben, c'est le bouche à oreille, c'est-à-dire, je sais pas, c'est un bon copain, une bonne amie ou un bon ami qui me dit, je te jure, c'est vachement bien, vas-y.
Et ben, vous savez quoi, c'est le principe de cette émission.
Non, mais je sais bien.
Le principe de cette émission, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire, nous, on a vu le film et on joue un peu le rôle de...
Je connais votre bienveillance.
Qui veulent
je connais votre bienveillance à tous et à vous en particulier. Enfin, en particulier parce que vous êtes le leader de cette émission. Et je l'aime, cette bienveillance. Donc, je suis pour, je suis content que vous racontiez cette histoire avec autant d'enthousiasme. Mais d'ailleurs, je ne sais même pas comment vous faites puisque tous les jours vous... Donc, je respecte beaucoup et j'aime beaucoup cette bienveillance. Mais je ne me sens pas capable, moi, de parler d'un film parce que je me dis ils seront plus heureux en le voyant qu'en m'écoutant
ça je vous confirme, on sera beaucoup plus heureux en voyant le film qu'en vous écoutant.
c'est le risque que je prends.
On parlait de bienveillance et tout l'inverse, voici Daniel Morin.
Ça y est, les amis, on en sait un peu plus sur la rentrée télé. Les grandes chaînes ont dégainé leur programme phare. Eh bien, n'ayons pas peur des mots, c'est de la merde. À part Nagui, grand timonier du divertissement service public dont la rigueur éditoriale n'a d'égal que sa faculté à apporter une légèreté de ton, toujours de bonne facture, avec en permanence un souci d'apport culturel populaire pour étancher la soif de curiosité spirituelle de la ménagère de moins de 50 ans, CSP-, tendance gauche, manucure, brushing, vacances à la grande motte, fan de Christophe Maé. Le reste, c'est de la merde. Enfin, de la merde. Je m'explique. De la merde comparée à la programmation dans d'autres pays. En Russie, par exemple, on n'a pas peur, on n'est pas frileux, on y va. Cette année, en hebdomadaire, on va pouvoir retrouver sur la chaîne Roshia 1, public chaîne, une émission citoyenne. Une émission d'information intitulée « Moscou, Kremlin, Poutine ». Un programme entier à la gloire du président russe.
C'est vrai.
Cette semaine dans Moscou, Kremlin, Poutine, retrouvez Vladimir à la cueillette aux champignons. Les champignons n'aiment pas se faire cueillir, sauf quand c'est la main ferme et douce à la fois du président Siviril qui sait vigoureusement saisir leurs tiges et les arracher à l'humus nourricier. Dans Moscou, Kremlin, Poutine, vous verrez aussi Vladimir Poutine songeur qui regarde passer un aigle aussi menaçant que majestueux voler au-dessus de la taïga. Ça ou bien? Ou bien est-ce l'aigle qui regarde amoureusement Poutine? On peut se poser la question quand on voit ô combien le leader russe est charismatique en marcel et pantalon treillis. Un pantalon ou un programme, on voit également l'immense Vladimir parler à des mineurs, des pauvres. Le pauvre est rassuré quand Poutine lui parle. Il est toujours financièrement dans la merde, mais il se sent plus riche de patriotisme dirigé qu'il est par un homme aussi merveilleux. Le grand Vladimir qui s'entretient aussi avec des écoliers, les futurs pauvres du pays. Qui, comme leurs aînés pauvres, seront fiers d'avoir comme président un Vladimir flamboyant, toujours en poste, et ce, dans la plus pure tradition démocratique, depuis plus de 30 ans. Un témoin évoquerait enfin l'amour de Poutine pour la nature. Il dit que c'est dangereux qu'il y a les gardes du corps, bien sûr, mais en même temps, les ours ne sont pas fous. Ils n'oseraient pas s'attaquer à Vladimir. Quand Vladimir regarde un ours dans les yeux, automatiquement, le plantigrade est pris de tremblements de peur. Des tremblements qui laissent place à des frissons de joie pour se transformer par la suite en élan amoureux. À de nombreuses reprises, on a vu des ours qui, face à Poutine, étaient pris d'incontrôlables érections. Dans Moscou, Kremlin, Poutine, on ne voit jamais Poutine sourire. Pourquoi? Parce que le sourire, c'est pour les faibles. Mais pourquoi un tel programme? Eh bien, en ce moment, la cote de popularité du président Poutine est au plus bas. La réforme des retraites passe très mal. Il fallait réagir, montrer un homme fort qui inspire l'admiration. Oh, nom de Dieu! Mais c'est ce que devrait faire Macron, lui qui dévisse dans les sondages chez Le Moment. Comme sus mentionné, les programmes de rentrée chez nous sont pourris. Tous ! À part Nagui, grand timonier du divertissement, etc., 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 etc. Eh bien, notre président devrait prendre une petite hebdo, un programme à sa gloire, style Moscou, Kremlin, Poutine. On verrait l'homme sous un angle flatteur. Les Français seraient fiers de leur président et il pourrait imposer sans problème toutes ses réformes. Bonjour et bienvenue dans Paris Élysée Macron. Cette semaine, vous découvrirez notre président en balade dans la forêt avec ses nouveaux amis les chasseurs. De magnifiques images où on voit un sanglier se frotter de plaisir à la jambe d'Emmanuel Macron. Un président qui, dans Paris Élysée Macron, va à la rencontre des Français. On le voit au siège du MEDEF en train de boire du champagne. On le voit aussi au contact des pauvres qu'il salue amicalement depuis la fenêtre de sa voiture qui ralentit devant les hordes de nécessiteux enthousiastes à la vue de leur leader, toujours aussi inspirant et dont l'éclat leur fait oublier leur misère quotidienne. Paris Élysée Macron, c'est chaque semaine sur France Télévisions. Je pense que c'est une excellente idée. À demain.
80 producteurs.
Merci. C'est bon. La bande originale avec Nagui.
L'avenir immédiat, demain la sortie de Photos de Famille, le film s'est signé, que ce soit par la réalisation et le scénario par Cécilia Rouault. Quant à l'avenir un peu plus lointain, au mois de janvier, Chantal, vous serez à l'affiche de Qu'est-ce qu'on a fait encore au bon Dieu ?
Qu'on a encore fait ?
Qu'est-ce qu'on a, pardon, encore fait au bon Dieu ? La suite ou le numéro 2
enfin,
le
numéro
du film
2,
de Philippe Chauvron ? Avec Christian Clavier, Elodie Fontan, Frédéric Bell, Julia Piaton, Média Sadoun, Frédéric Chaud. Là, il faut trouver une solution pour faire une suite sans qu'on se dise c'est moins bien que la première. Enfin, il y a toujours peur des numéros 2.
Je ne savais pas qu'il y aurait un numéro 2. Puis quand ils nous l'ont proposé, voilà, j'ai rigolé en le lisant. J'ai dit pourquoi pas retrouver la bonne bande d'avant.
C'est le premier signal positif, c'est se marrer en lisant le scénar.
Oui. Quand même, pour moi, c'était ça. M'amuser, savoir que j'allais retrouver cette équipe, Clavier avec qui je rigole bien, et puis voilà.
Quant à vous, Jean-Pierre, quels sont... Là, tout à l'heure, vous disiez, pendant 2 ans, je ne vais rien faire. C'est une vanne.
C'est moyennement une vanne. Pour l'instant, il n'y a rien qui me plaît. Je jouis du farniente.
De la vie. Et si on vous propose un scénario d'un détective privé à la Mike Hammer?
Alors là, évidemment, tout de suite, si c'est bien, oulala.
Et d'écrire vous-même, là, vous êtes à...
Non, en fait, on vient de recommencer avec Agnès à se mettre au boulot, et donc on va commencer à écrire quelque chose. On ne sait pas encore quoi, si c'est théâtre, cinéma, mais enfin...
Mais l'envie est là, en tout cas.
L'envie est là, oui.
Très bien. Daniel Morin, des excuses à présenter.
Ah ben bien sûr, désolé pour le CSA d'abord, qui nous a contacté à la pause Furibar pour rappeler que la promotion de la consommation d'alcool pour faire la fête comme pour vaincre ses peurs était complètement interdite par la loi. D'accord, les gars, on n'invitera plus Chantal Lobby. Désolé pour la femme de ménage de Jean-Pierre Bacri, qui, on l'a découvert pendant l'émission, ne reçoit pas toute la considération qu'elle mérite. Écoutez, madame, il nous a promis, à la pause, que demain, il allait vous faire un petit bisou et qu'à Noël, vous seriez même payé. Et désolé enfin pour Jean-Pierre, dont le rapport à la musique est passé de Patti Smith au CBGB de New York à...
C'est vrai, ça va rester.
Ouais, comme disait Nagui, la vieillesse est un naufrage.
N'importe quoi. Photo de famille, demain au cinéma, Cécilia Rouault pour la réalisation. Nos invités, Chantal Lobby, Jean-Pierre Bacri dans ce casting, aux côtés de Vanessa Paradis, Camille Cotin, Pierre Deladonchamp. Et je le redis parce que je l'admire, Laurent Capelluto, qui est parfait dans ce film. Merci à tous les deux, portez-vous.
Merci à tous.
À très bientôt. Demain, nous recevrons, si je ne m'abuse, Julie Depardieu et Régis Laspalès.
Oh,
qui seront bientôt au théâtre.
Fric-frac.
Pour Fric-frac, mise en scène par Michel Faux.